princesse Marie qu'on a dans les Émirats et ce qu'on fait. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper. Donc pour comprendre en fait les espèces, comment elles vivent, d'abord il faut comprendre les habitats dans lesquels elles vivent. Donc dans les Émirats et dans le Golfe en particulier, on a quatre types d'habitats essentiels. Donc c'est tout en anglais, hein, mais je vais vous le dire en français. Donc les grandes étendues d'herbes marines, les zones où il n'y a que du sable, mais vous verrez qu'il n'y a pas seulement du sable, les mangroves et les récifs coralliens. Donc les seagrass, herbes marines, est-ce que vous savez ce que c'est?
Oui.
Des? C'est qui a dit? Oui.
C'est des algues?
Non, justement, c'est pas des algues. En fait, c'est des plantes à fleurs, donc comme les plantes que vous avez partout sur la terre, en fait. Donc, c'est des plantes, en fait, qui créent vraiment des fleurs. Alors que les algues, elles n'ont pas de fleurs, c'est des spores. Elles se reproduisent avec des... Il n'y a pas de graines, c'est des ça s'appelle des spores. Et la différence aussi, les herbes marines, donc elles ont des racines comme les plantes, et elles vont chercher les nutriments dans le sol marin, alors que les algues, c'est juste une sorte de racine pour s'ancrer au sol, mais ça ne leur sert pas à se nourrir. Donc, comme toutes les plantes, elles respirent la nuit et la journée, elles font la photosynthèse. Donc, c'est très bon pour l'environnement parce que donc elles redonnent de l'oxygène en faisant la photosynthèse. C'est donc toutes ces étendues d'herbes marines, c'est un très bon habitat pour beaucoup d'animaux, surtout des petits mollusques et puis tous les poissons, les bébés poissons qui se protègent en fait à l'intérieur, c'est comme une nurserie. Et donc il y a des espèces qui mangent directement ces herbes marines, donc comme les dugongs, ils mangent que ça en fait, c'est leur principal menu. Des tortues comme les tortues vertes qui mangent aussi beaucoup d'herbes marines, et donc voilà, des mollusques, des oursins. Donc ça sert aussi, ça fait une protection de la côte contre l'érosion, ça sert à maintenir le sol stable, et grâce à leur respiration, la photosynthèse, donc ça permet de purifier l'eau et garder une bonne qualité. Donc voilà le dugong. Je ne sais pas si vous savez ce que c'était, mais donc on l'appelle aussi vache marine. Donc comme il mange que de l'herbe, donc c'est comme une vache. Donc c'est une espèce qui est en danger de disparition. On a ici dans le Golfe, on est la deuxième plus grande population au monde. On a la deuxième plus grande population au monde après l'Australie. Donc on a recensé à peu près 3000 individus, qui n'est pas beaucoup pour permettre à l'espèce de se reproduire et de survivre, mais donc c'est pour ça qu'il faut bien les protéger. Et pour les protéger, il faut protéger leurs habitats. Donc c'est un mammifère marin, c'est comme un dauphin, il a besoin de retourner à la surface pour respirer. Là vous pouvez voir, donc c'est sous l'eau en fait, on voit le dugong où il est passé, on voit la trace. Donc il mange énormément d'herbes marines. Donc ça c'est un autre habitat, parce qu'il y a des grandes zones où il n'y a que du sable et on croit qu'il n'y a rien, mais en fait c'est très très bien pour le camouflage. Donc vous pouvez trouver beaucoup de raies qui se camouflent dessous, des seiches, plein de molluses, de crabes, donc il y a beaucoup d'espèces si vous prenez le temps de regarder, de fouiller. Mais attention avant de mettre vos pieds, parce que s'il y a une raie stingray qui est cachée, elle a un dard avec un venin. Donc il faut bien, quand vous allez sur la plage et dans l'eau, il faut bien faire comme ça avant de mettre vos pieds. On ne sait jamais. Et par exemple, il y a un petit indice, si vous êtes perdu sous l'eau, par exemple, vous pouvez voir sur le sable des marques. Et si vous les suivez, elles sont parallèles à la côte. Donc vous pouvez savoir de quel côté vous devez aller pour aller à la côte. Donc un autre habitat très important, les mangroves, dont votre professeur a dû beaucoup vous en parler déjà, mais donc ça fait comme une forêt et c'est une espèce qui vit, qui a besoin de l'eau pour vivre, mais pas tout le temps. Donc elle vit avec l'eau qui est apportée de la mer, c'est de l'eau salée. Donc c'est ici dans les Émirats. On n'a qu'une seule espèce qui peut vivre. Elle s'appelle Avicenna marina, c'est celle-ci. C'est la seule qui est capable de s'adapter aux conditions très extrêmes qu'on a. Donc, surtout les conditions de température. En hiver, l'eau elle est à 18 degrés. Et en été, pardon, elle peut monter jusqu'à 37 et voire parfois on a eu 39 degrés à la surface. Donc, elle est très très, c'est une espèce très résistante. Elle est résistante aussi aux conditions extrêmes de salinité, parce que l'eau ici, elle est très très saline. Il y a beaucoup de sel. Il y a peu de nutriments aussi. Donc, voilà. Donc, c'est très important parce qu'elle sert aussi à stabiliser. Ah oui, ça je vous montrerai après. Donc c'est une plante à fleurs aussi, donc elle fleurit entre avril et juillet. Vous pouvez voir les fruits. Et donc comme votre professeur vous disait, la plus grande mangrove des Émirats, elle est à Corcalba. Donc elle peut grandir jusqu'à 5 mètres, c'est pas très très haut, mais vous pouvez voir les racines aussi qui ressortent ici. Parce que contrairement à d'autres espèces d'arbres, les racines vont à l'extérieur pour prendre l'oxygène directement dans l'air. Donc une mangrove, c'est très important aussi de la préserver. Donc comme les cygrasses aussi, elles font la photosynthèse, donc elles absorbent le CO2. Donc avec tous les problèmes de réchauffement climatique, au moins une mangrove, ça permet de rejeter de l'oxygène dans l'air, donc ça participe à réduire le réchauffement climatique. Elle permet d'absorber la pollution aussi, donc ça permet de rendre l'eau et l'air de meilleure qualité, mais bien sûr, il ne faut pas que la pollution soit trop, trop grande. Elle protège aussi les récifs coralliens, les lagons, de toutes les eaux turbines. Donc c'est aussi un très grand habitat pour plein d'espèces. Donc vous pouvez voir, c'est surtout le matin et en fin d'après-midi, mais il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent. Et ils viennent parce que donc il y a beaucoup de mollusques, d'espèces qui vivent dans la mangrove. Et des petits poissons aussi. Donc ça sert aussi de nurserie pour les bébés poissons. Avant d'être relâchés dans la mer, il y a des espèces qui vivent d'abord dans les mangroves et après... ils vont dans la mer au large quand ils sont plus grands. Mais là, dans les Émirats, donc les mangroves, comme le professeur vous a expliqué, elles sont menacées et c'est pour ça qu'il n'y en a presque plus. Donc c'est surtout là les principales menaces dans les Émirats, c'est surtout les constructions humaines, tous les développements de la côte. Donc on a carrément détruit les mangroves. Et puis avec la pollution qu'on rejette dans l'eau, donc c'est comme vous disiez, s'il y a trop trop de pollution, elles ne peuvent pas vivre non plus. Toutes les marées noires, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a commencé un programme où, il y a à peu près 4-5 ans, où on replante une mangrove. Donc on pourra le faire avec vous. Donc on met des plants, on fait sous forme de jeu. On fait une course et donc les enfants après vont collecter des mangroves dans la mer qu'on a mis avant, des plants, et après on va les planter et vous pouvez voir après 4-5 ans, elles peuvent être grandes comme ça. Et là vous voyez toutes les racines. Ensuite un autre habitat très très important, ça c'est pareil à Dubaï, malheureusement il n'y en a plus beaucoup alors qu'avant il y en avait sur toute la côte. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est des coraux ?
Oui.
Qu'est-ce que c'est ? Oui.
C'est une sorte de pierre de différentes couleurs. Une sorte de plante, quoi.
Non, pas vraiment. Je t'explique. Oui.
Elle vit ? Elle respire ?
Oui. En fait, c'est pas une plante, ce sont des animaux. Donc c'est vrai que ça ressemble à une pierre, parce que en fait ces animaux, donc c'est des petits polypes qui sont très petits, font 2 mm par exemple, bon, il y a plusieurs espèces, mais... Et ils vivent tous ensemble en colonie et ils sécrètent un squelette de carbonate de calcium, donc c'est pour ça que ça ressemble à une pierre. Mais en fait, ce sont vraiment des animaux qui prennent de la nourriture, qui expulsent des déchets, qui respirent. Donc ils vivent en fait, les polypes vivent en symbiose, donc ça veut dire qu'ils ont besoin d'une algue, bon, peu importe le nom. Donc cette algue en fait, elle vit sur eux et elle leur permet de, grâce à la lumière, et d'attraper en fait les nutriments nécessaires pour la vie du polype. Et donc ce polype, c'est donc l'animal, donc il y en a plusieurs pour former une colonie. Ils ont des tentacules et certains sont poisonneux. Donc en fait, ils attrapent des petits poissons, des microscopiques, du plancton. Donc c'est tous les animaux microscopiques. Et voilà, ils se nourrissent comme ça. Et je vous montrerai des photos après. Donc on les retrouve, donc pour vivre, ils ont besoin de la lumière du soleil. Puisqu'ils vivent avec cette algue, et l'algue, elle a besoin de la lumière pour faire la photosynthèse. Ils ont besoin d'eau très claire, peu profonde, et normalement une température en moyenne de 28 degrés. Mais en fait, on s'aperçoit que dans le Golfe, donc la température monte jusqu'à 37, et finalement, ils s'adaptent beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Donc on voit que dans le Golfe, voilà, toutes les espèces sont beaucoup mieux adaptées qu'en Australie, par exemple. Donc c'est très important pour la recherche. Donc c'est comme les autres habitats, ils sont très importants pour accueillir des poissons. Donc quand vous voyez des coraux, c'est sûr qu'il y a beaucoup beaucoup de poissons qui vivent aux alentours. Il y a des bébés poissons qui se cachent aussi dans les coraux eux-mêmes. Donc il y a certains poissons comme les poissons perroquets qui mangent directement les coraux. Et aussi, donc, ça fait une barrière de protection contre les érosions de la côte. Voilà, donc par exemple, je vous montre juste quelques espèces. Ça, c'est des coraux qu'on appelle des coraux, des platiers en français. Donc ça fait comme des tables, des grandes branches comme ça. Donc en fait, là, les polypes, vous ne pouvez pas les voir, ils sont minuscules. Mais voilà, donc vous voyez tous les poissons qui vivent autour de ces coraux. Il y a d'autres espèces qu'on appelle les coraux brain corals. Donc c'est comme un cerveau en fait, une forme de cerveau. Donc ceux-là, ceux-là. Il y en a qui ressemblent comme à des doigts. Ceux-là. Voilà, et toutes ces espèces, elles vivent toutes ensemble. Donc quelques exemples de poissons qui ont besoin des récifs coralliens pour vivre. Donc comme toutes les damselfish, les sea bream, les clownfish, parce que donc bon, c'est comme Nemo. Ils vivent dans des anémones, mais souvent les anémones on les trouve à côté des, enfin dans l'écosystème du récif corallien. Là vous avez par exemple un gobie, donc cette espèce de gobie, il vit vraiment que dans les coraux. Et ils sont assez rares dans le Golfe, mais nous, on en a trouvé en faisant des recherches, donc c'est très bien. Celui-là, il s'appelle Sweet Lips, il a des grosses lèvres. Là, c'est le parrotfish, donc il se nourrit directement du corail. Si vous plongez, vous pouvez entendre le bruit, ça fait... on entend ses dents. Les angelfish, butterflyfish, ils sont très jolis. Ils vivent toujours par deux. Ça, c'est surgeonfish. Voilà, plein d'espèces. Donc souvent, les poissons des récifs sont très, très colorés. C'est pour ça que pour les plongeurs, c'est super d'avoir ces récifs parce qu'on voit les plus jolis poissons. Et un peu plus au large, juste quelques exemples de plus gros poissons, mais qui ont aussi besoin des récifs parce qu'ils se nourrissent des poissons qui sont sur les récifs. Donc comme les trévalis, les empereurs. Et tous ces poissons sont très très bons à manger. Donc les pêcheurs ont besoin finalement des récifs coralliens pour pouvoir manger ces poissons, enfin pour pouvoir les pêcher. Donc c'est pour ça que tout l'écosystème doit être protégé. Donc on a aussi dans les Émirats d'autres espèces comme les requins, les raies, des serpents de mer. Donc attention, les serpents de mer, celui-là il est sur la plage parce que je pense qu'il était mort, mais il devrait être dans l'eau. Mais ils sont très beaux à regarder, mais il ne faut vraiment pas les toucher parce qu'ils sont encore plus dangereux que des serpents de terre. Hein. Et ça, c'est un bébé requin. Bamboo shark. Ils sont très mignons. Et ça, c'est le whale shark, donc le requin à baleine. Ceux-là, vous savez ce qu'ils mangent ?
Du plancton.
Oui, ils mangent que du plancton. Donc c'est pour ça, si vous en voyez, il ne faut vraiment pas avoir peur parce qu'ils sont très gentils. Ils mangent que vraiment des espèces minuscules. Là, c'est des requins à pointe noire qu'on voit très souvent près des récifs. Un exemple de raie, par exemple. Ensuite, on a des tortues. Donc là, la tortue verte qui vit dans les récifs, mais en fait, elle mange aussi beaucoup de cigrasses. Donc ici, dans le golfe, il y a beaucoup, beaucoup de tortues vertes, mais elles ne pondent pas les œufs dans le golfe. Elles vont à l'extérieur, à Oman, par exemple. Sauf quand on a fait une étude l'année dernière, on a trouvé deux nids de tortues, et c'est la première fois dans l'histoire du golfe qu'on voit des tortues vertes pondre. Et donc voilà, quand elles pondent leurs œufs, elles pondent à peu près 100 œufs. Donc c'est une espèce aussi qui est classée endangered, donc, parce qu'elle est aussi, pas en voie de disparition, mais presque, elle est en danger. Surtout en danger parce que, à cause des menaces sur son habitat. Et on a la tortue imbriquée, en français. Donc celle-là, par contre, elle a vraiment besoin des récifs coralliens pour vivre. Et c'est celle qu'on voit le plus pondre leurs œufs dans le golfe. Donc elle est un peu plus petite. Et celle-là, elle est classée critically endangered, donc parce qu'il y en a de moins en moins. Malheureusement, elles sont soumises à plein de menaces. Oui, je vous montrerai après. Et celle-là, donc, à partir de mars... oui ? Ah, ok. À partir de mars, vous pourrez voir sur les côtes ici, donc il y a à peu près 30 tortues qui viennent chaque année. Et chaque année, on en a un peu plus, parce qu'elles n'ont plus d'autres endroits pour pondre. Donc, du coup... Comme ici c'est protégé, elles se passent le mot en quelque sorte et elles viennent toutes ici. Donc la saison c'est entre de mai à juin et à partir de juin on commence à avoir les petits bébés tortues qui sortent. Donc la période d'incubation c'est à peu près 50 jours. Ensuite il y a des dauphins, donc là c'est le dauphin le plus commun qu'on appelle bottlenose dolphin. C'est celui qui fait le plus, c'est comme Flipper, hein, celui qui fait le plus de pirouettes. Donc il vient très près des bateaux, il est pas farouche du tout. Il y en a un autre qui s'appelle le dauphin à bosse. Donc vous pouvez le reconnaître parce qu'il a une bosse ici. Donc ça c'est pareil, il y en a pas mal et ils vivent près des côtes. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi protéger toutes les côtes parce que sinon on va perdre ce dauphin et il est aussi en voie de disparition, donc enfin menacé, donc il faut aussi protéger son habitat. Ensuite vous avez dû voir dans la vidéo donc cet oiseau, c'est un cormoran de Socotra. Bon, il a l'air très basique comme ça, mais en fait c'est dans les Émirats, donc au large d'Abu Dhabi, de Sir Banias Island. C'est le seul endroit où il pond ses œufs, dans le monde entier en fait. Il n'y a que à cet endroit-là. Donc on a découvert ça et malheureusement il y a aussi beaucoup de menaces avec les pêcheurs qui viennent et qui prennent leurs œufs. Et donc là, la population elle est de 14 000 oiseaux à peu près et il faut vraiment, vraiment les protéger. Voilà, je vais vous montrer quelques menaces maintenant. Par exemple, là, vous voyez ces traces. Qu'est-ce que c'est, à votre avis ?
Des traces de voiture ?
Chameau.
Non.
Tortue.
Oui, c'est une tortue. Donc là, c'est à Sir Banias Island, donc une île à Abu Dhabi. Mais on voit ça partout. Une tortue qui vient pondre ses œufs. Et là, elle a la route, elle essaye la route, elle essaye encore la route. Et finalement, elle n'a pas pu pondre. Elle a essayé à plusieurs endroits. Donc ça, c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de tortues. Et au bout d'un moment, elles n'ont plus d'endroit pour pondre. Donc malheureusement, elles pondent dans l'eau. Et bien sûr, les œufs sont perdus. Donc ça, c'est pour qu'on essaye de montrer à toutes les entreprises qui veulent construire des choses. C'est très bien, mais il faut prendre en compte l'environnement. Donc d'abord, il faut étudier l'environnement. Là, ils ne savaient pas qu'il y a des tortues qui viennent pondre. Malheureusement, ça ne participe pas à faire reproduire l'espèce. Donc voilà, toutes les constructions humaines, on a une perte d'habitat, donc d'espèces. Avec toutes les zones, les usines de désalinisation de l'eau, en fait, on rejette beaucoup d'eau chaude dans l'eau, et malheureusement, ça fait brûler les herbes marines, et aussi les coraux, ils deviennent blanchis. Et quand ils deviennent blanchis, si ça dure trop longtemps, au bout d'un moment, ils vont mourir. Donc ça, c'est aussi à cause de l'homme. Et il y a aussi des El Niño, donc des événements où l'eau de la mer devient très très chaude. Donc ça arrive aussi, c'est un facteur naturel. Mais si en plus, on ajoute le facteur de l'homme qui augmente la température de l'eau, on va perdre de plus en plus d'espèces. Les espèces sont menacées aussi par les... Elles sont percutées par des bateaux. Donc, par exemple, vous voyez ce dugong. Ici, là, on voit la trace d'un moteur de bateau qui l'a percuté. Ce dauphin, c'est pareil. Bon, désolé pour les images, c'est pas très joli, mais il faut que vous le sachiez quand même. C'était une maman dauphin. Elle était enceinte et un bateau l'a percutée. Et du coup, elle est morte. Elle a fait une fausse couche. La pollution... Donc ça, après, on ira avec vous, on fera un clean-up. Donc, par exemple, tous les déchets plastiques, il faut faire attention parce que les tortues peuvent les manger. Elles peuvent croire que c'est des méduses et elles s'étouffent. Tous les déchets des pêcheurs, donc les filets, malheureusement, il y a plein d'espèces qui se prennent dedans. Là, c'est une tortue. Il y a aussi des dauphins, des dugongs. Aussi des locaux qui prennent les œufs des cormorans, ça c'est des œufs d'une espèce de sterne, et aussi les œufs des tortues. Donc ça, nous, Yemidji, on essaye de leur parler pour leur montrer que c'est interdit, et on essaye de faire changer les lois, parce que c'est pas encore écrit dans les lois, malheureusement. Bon, ça je passe vite. On fait des tests de l'eau partout, ici à la réserve et au Pam Djebel Ali. Et aux femmes Jumeirah aussi. On fait des études sur les seagrasses, les herbes marines, donc dans le palme, pour voir quelles espèces vivent, quelles espèces d'herbes marines et quelles espèces animales. Là, on a tout ce programme où on ramasse les algues. Donc, comme je vous disais, après, ça peut servir à aspirer le pétrole qui se déverserait dans l'eau. Ça, c'est un exemple de tous les déchets qu'on a ramassés. Donc, le principal des déchets, c'est surtout le bois qui revient de construction, mais ça met beaucoup de temps à se dégrader. Là, vous avez pour les pêcheurs surtout, et puis les constructions. Donc, ils rejettent tout ça dans l'eau, et malheureusement, vous avez vu, les espèces, les tortues, les dauphins, ils peuvent se prendre dedans. Et là, la quantité de plastique... En fait, c'est énorme parce que vous savez, le plastique, c'est léger. Donc, si on arrive à avoir 2 tonnes, c'est plus que ça, énormément de plastique rejeté dans l'eau. C'est pour ça qu'il faut éduquer les populations. Par exemple, là, en 2010, on a ramassé 45 tonnes de tous ces déchets, juste ici, là. Bon, les tortues, ça, je vous ai expliqué rapidement. Donc, on voit son nid, c'est comme ça. Ça, oui, je voulais vous expliquer. Donc, sur les plages, souvent en hiver, on trouve beaucoup de tortues qui ont toutes ces... Ça s'appelle des barnacles qu'elles ont sur la carapace. Parce qu'en fait, donc, c'est les bébés tortues qui sont nés en août. Elles sont nées quand l'eau est chaude. Et quand arrive l'hiver, surtout l'hiver dernier a été assez froid, l'eau a été très froide. Donc elles ne peuvent plus aller dans les zones où elles doivent se faire nettoyer par les poissons parce qu'elles sont frigorifiées. Donc du coup, petit à petit, il y a des algues qui viennent se mettre sur leur carapace puis des barnacles, des mollusques là, qui viennent vivre dessus. Et au bout d'un moment, la carapace est tellement lourde qu'elles n'arrivent plus à bouger. Des fois, elles en ont sur leur bouche, donc elles ne peuvent plus se nourrir. Et au bout d'un moment, elles sont rejetées en fait, avec la marée sur les plages. Et on en trouve beaucoup sur les plages. Donc ce qu'on fait, on les prend et on va les amener dans une sorte d'hôpital pour les tortues. Et à peu près une fois tous les 3-4 mois, on fait un grand relâché de tortues. Donc elles sont... C'est très facile pour les soigner, il faut les mettre dans l'eau douce. Et les barnacles, naturellement, elles ne vivent pas dans l'eau douce, donc elles tombent. Et voilà, après on peut les relâcher. Donc on a fait des études sur les tortues. Donc là, il y a dans toutes ces, ici, sur toute la côte. On a vu tous les problèmes justement avec les constructions, des routes et tout ça. Donc malheureusement, on a un grand programme pour aider... les tortues à se reproduire mieux. Ça, c'est pour vous montrer ici. Donc là, on est là. Oui, en fait, on est là, la réserve. Donc on a des tortues qui pondent sur toute cette plage. Là, c'est Sirbunyar Island. On a fait une grosse étude aussi. Elle est au large. Et là, au moins, c'est protégé par des militaires, mais au moins c'est protégé, donc il n'y a personne qui vient et on peut voir des nids de tortues tout autour. C'est l'île dans le golfe, donc dans tout ça, c'est l'île où il y a le plus de tortues qui viennent pondre. Donc on voit que la protection, c'est très efficace. On a participé à un programme avec WWF où on tague les tortues, donc ici et aussi à cette île au large. Et ils ont fait aussi en Iran, au Qatar, à Oman. Donc on peut suivre la tortue pendant un an à peu près et on voit où est-ce qu'elle va. Donc par exemple, ça c'est juste un exemple. Donc elle a commencé ici, là où c'est violet. Elle est allée au nord, puis elle est redescendue. Et là on voit qu'elle a passé beaucoup de temps ici. Donc ça nous permet pour la conservation, en fait, on se dit, cette zone-là, elle sert aux tortues pour se nourrir, donc il faut la préserver. Ça, c'est une tortue qu'on a appelée Miss Iemiji, parce qu'on l'a taguée donc, ici, c'était en 2010. Et on va le refaire le programme encore cette année, donc à partir de mars. Donc voilà, Miss Iemiji, elle est partie de là, et elle est allée dans le nord, et elle a passé son temps ici, donc c'est vers Ajman, à Saint-Rémy. On fait beaucoup d'études sur les coraux aussi, donc autour de cette île. C'est là où il y a le plus de... Le récif corallien sont très 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 beaux. On a découvert des nouvelles espèces qui n'ont pas été découvertes avant pour cette région. Et pour finir, voilà, donc comme on participe pour protéger les coraux, donc ici, avec tous les développements qui ont commencé à se passer, on voyait que les coraux, ils souffraient parce qu'il y a beaucoup de sédimentation, donc ils sont étouffés en gros. Donc on a vu que c'était vraiment nécessaire de les transplanter. Donc en 2007 et en 2008, on a fait une grande campagne de transplantation de ces coraux. Donc en partant ici, on en a transplanté un peu plus loin, là où ils sont plus en sécurité, et aussi le long de cette digue. Voilà, donc on les a collectés avec des marteaux, très délicatement bien sûr. On les met dans des paniers et ensuite on a une sorte de ciment qu'on mixe sous l'eau et puis on les a fixés sur des rochers. Donc, d'abord on nettoie, on met le ciment et on fixe le corail. Et après 3 semaines déjà, cette sorte de ciment on ne le voit plus. Et puis il est biodégradable, hein, y a pas de problème. Et donc après déjà... Tout de suite, on voit les poissons qui viennent. Et après 3-4 mois, enfin, on surveille tout le temps. Et là, on a vu, par exemple, en 2008, le taux de survie a été de 95%. Donc, c'est très, très bon. Donc là, ça continue à grandir. Donc, en gros, on a recréé un nouvel habitat. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais bon, on va aller se profiter de dehors un peu.